Il est 13h à Kaboul, 12h à Kinshasa. Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, diminution sensible de la fréquentation touristique au parc national de Kahuzi-Biega suite à la pandémie du coronavirus. Le directeur chef de site de l'ICCN appelle le Congolais à valoriser le tourisme interne en visitant leur propre site. À Butembo, l'université catholique du Graben regrette que l'insécurité perturbe la production des médicaments essentiels dans son laboratoire. Les dirigeants de l'université appellent le gouvernement congolais à faciliter la production locale des médicaments essentiels afin de réduire la dépendance extérieure. Notre invité, c'est le manager du programme WCF pour la conservation de l'Okapi. Berce Nsafouansa affirme que les réserves protégées de l'Ituri sont toujours menacées par des groupes armés qui se livrent également à l'exploitation des minerais. Madame, messieurs, bonjour. Au sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega connaît actuellement une diminution sensible de la fréquentation touristique suite à la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme célébrée ce lundi, le directeur chef de site de l'ICCN au dit parc national appelle les Congolais à valoriser le tourisme interne en visitant leur propre site. Dédieu Biaombe est au micro d'Emmanuel Elmejua Kabedi.
Kahuzi-Biega avait déjà lancé le tourisme. Avant l'arrivée de Covid, on était vraiment en bonne position sur le plan touristique, comme une troisième meilleure destination touristique en Afrique. Mais avec le Covid, nous n'avons pas de touristes qui arrivent. Ce qui nous pousse d'ailleurs à faire beaucoup de lobbying pour le tourisme local. On pense que si les Congolais eux-mêmes se donnaient à valoriser ou à la curiosité de connaître ce qui se trouve autour d'eux, ça peut développer un bon tourisme au niveau du pays, au lieu de compter toujours sur le tourisme extérieur. Nous avons vraiment une diminution à haut niveau de la fréquence des touristes. Mais il y a aussi des problèmes de transport. Les quelques touristes qui veulent venir chez nous, ils sont butés toujours aux problèmes de transport, aux problèmes d'accès aux avions passés par Rwanda, où ce n'est pas aussi autorisé à l'heure actuelle. Le PNKB offre des opportunités. Le PNKB met en place aujourd'hui toutes les mesures de protection, mesures barrières, et nous essayons vraiment de respecter les standards internationaux de sécurité pour sécuriser les touristes et les produits touristiques.
L'économie mondiale pourrait connaître une perte de plus de 4 milliards de dollars américains à cause des conséquences de la pandémie du coronavirus sur le tourisme et que le relèvement de ces secteurs ne pourrait se faire avant 2023, voire plus tard. C'est ce que estime l'Organisation mondiale du tourisme dans un récent rapport qui a été publié en marge de la Journée mondiale du tourisme ce 27 septembre 2021. Selon ce rapport, le plan mondial de vaccination reste crucial pour élever le tourisme. Une analyse de Jean-Pierre Elali Coco.
Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants au monde. Il emploie une personne sur 10 sur la planète et assure le moyen de subsistance à des centaines de millions d'autres. Cependant, la pandémie de Covid-19 a eu un impact économique et social important sur l'industrie du tourisme mondial. Tenez, du fait de la pandémie, pour la seule période de janvier à mai dernier, les arrivées des touristes internationaux ont été de 85% inférieures à leur niveau de 2019 et elles ont connu une baisse de 65% par rapport en 2020, comme le montrent les données de l'OMT. Et toujours d'après l'OMT, les pays en développement ont été les plus touchés par la crise, subissant la plus forte réduction du nombre d'arrivées des touristes, estimée entre 60 et 80% en 2020. Pour remédier à cette situation, l'Organisation mondiale du tourisme préconise un tourisme pour une croissance inclusive, de sorte que personne ne soit laissé de côté, comme le reconnaît le deuxième principe de l'agenda 2030 pour le développement durable et ses ODD. Par conséquent, le plan mondial de vaccination demeure crucial pour le relèvement du secteur.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, à Butembo, l'université catholique du Graben regrette que l'insécurité perturbe la production des médicaments dans son laboratoire. L'attaché à ce laboratoire dit ne plus être en mesure d'importer les produits nécessaires pour fabriquer notamment des médicaments contre le rhumatisme, la toux et de produits pour soigner les maux d'yeux. Félicien Bayingana invite par conséquent le gouvernement congolais à faciliter la production locale des médicaments afin de réduire sensiblement la dépendance extérieure. Il a été joint par Florida Kahambu.
Cette insécurité affecte d'une manière significative la production de nos médicaments. Il y a une pommade qui est fabriquée à partir de plantes que nous trouvons localement, mais il y a aussi des pommades qu'on fabrique à partir de matières premières que nous importons des pays voisins comme de Nairobi ou des pays de l'Asie. Pour le moment, on a des difficultés d'en avoir. Nous sommes presque à rupture de stock et on ne sait pas les avoir parce qu'avec l'insécurité, ce sont des matières sensibles, alors on a des difficultés d'avoir même des transporteurs qui connaissent les propriétés des produits, ils ne veulent même pas les transporter pour qu'ils ne soient pas les dangers pour eux avec ces mouvements d'incendie de camions. Que les gouvernements puissent permettre l'évolution ou la création des entreprises de production de médicaments. Parce que c'est impossible que tout ce qui nous soigne nous vienne de l'extérieur. Il faut que les médicaments essentiels et vitaux soient quand même fabriqués dans notre pays. On a vu les problèmes avec le Covid quand on a fermé les frontières. Comment nous avons souffert?
Nord Kivu encore, le président de la société civile de Ringeti appelle le gouvernement congolais et les humanitaires à construire au plus vite des abris pour des nombreux déplacés qui ont trouvé refuge dans cette localité du territoire de Beni, fuyant les affrontements dans leur village depuis plusieurs semaines. Bravo Muindo affirme que les familles d'accueil hébergent jusqu'à 20 personnes. Il pense que cette promiscuité pose problème. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
Notre province est voisine de l'Ituri, le territoire du Rumu est quasiment vidé de sa population. Tout le monde s'est déversé à Eringeti et les autres sont partis vers les Komanga et Oichame. La plupart de ces bas peuples-là, qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs très loin, ils sont ici à Eringeti. Alors vous voyez que la vie est devenue un peu compliquée parce que dans un ménage, on peut facilement trouver 15 personnes, 20 personnes. Tout ça, nous sommes en train de voir comme si ça peut nous occasionner d'autres maladies infectieuses. Puisque vous voyez que nous sommes dans de mauvais moments de pandémie, nous sommes 20 dans un ménage. Comment on va respecter les mesures barrières? Donc, nous sommes en train d'employer le gouvernement de voir comment ils peuvent faire ça, comme ils ont fait par Goma. Pourquoi ne pas aussi construire des maisonnettes pour les déplacés qui sont éringuettes, pour faire ce qu'ils ont, et aussi quand même, sont aussi songés par le monde humanitaire et par le gouvernement congolais.
Bravo Muindo affirme également que la localité d'Eringeti compte actuellement environ 4800 ménages de déplacés. Contacté à ces sujets, le bureau du HCR à Beni promet de donner son point de vue dans les prochains jours. En Ituri, pendant 7 ans, 5 miliciens tués, une dizaine d'autres grièvement blessés et 8 capturés par les FARDC. C'est le bilan de l'offensive de l'armée nationale hier dimanche après-midi contre la coalition des rebelles ougandais de l'ADF et de la force intégrationniste et patriotique de l'Ituri dans la localité de Makayanga à environ 5 km de la localité de Komanda en territoire du Rumu. Des sources locales affirment que les casques bleus de la MONUSCO ont ouvert le feu sur les assaillants qui avaient déjà incendié une vingtaine de maisons et un véhicule. Pour le moment, le calme est revenu dans cette localité grâce à l'intervention conjointe des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO. Le récit d'Isaac Remoyope.
La localité de Makayanga a été prise dans ce dimanche vers 14h par des hommes armés. Selon les gouverneurs de l'Ituri, il s'agit de la coalition ADF et FPIC. Ces derniers ont attaqué la position des FARDC. Un militaire est mort sur place et deux autres blessés, affirment des sources locales. Ces hommes armés ont également incendié au moins 25 maisons d'habitation et de commerce, ainsi qu'un véhicule qui était en panne. D'autres militaires venus des commandes sont vite intervenus pour déloger ces rebelles. Les forces loyalistes ont été précédées sur place par des casques bleus de la MONUSCO à bord de leurs chars de combat qui ont tiré plusieurs coups de feu pour repousser l'ennemi. Selon les gouverneurs de l'Ituri, l'armée contrôle depuis dimanche soir cette localité. Ils dressent un bilan de 5 morts parmi les assaillants, une dizaine de blessés et 8 autres miliciens capturés. Le général Johnny Luboya déplore la présence des fils du millier parmi les otages.
Le village de Makayanga a été récupéré tard le soir. La plupart de l'ennemi que nous avons été même capturés, ce sont les enfants de commandant. Cela montre que vraiment au niveau de l'accompagnement sur le plan, n'est-ce pas, politique, cela ne s'est pas encore réalisé.
Toute la localité de Makayang est pour l'instant vidée de ses habitants, dont certains ont trouvé réfuge à Bounia. Bounia, Isakre Moyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour parler de cette attaque la nuit dernière par des miliciens de la Codeco au village de Digéné dans le territoire de Djougou. Le bilan dressé par des sources concordantes fait état de 3 civils tués. Ces miliciens ont également pillé plusieurs biens de la population avant de se retrancher dans leur bastion de Lisseï, non loin du lieu du drame. La société civile et les notables de la zone demandent au gouvernement congolais de lancer des opérations militaires contre ces groupes armés qui contrôlent encore certaines localités. À Bounia, retrouvons une fois encore Isaac Remoyope.
Cette attaque est attribuée à la faction de la Codeco dénommée Bon Temple dédié qui s'est installée dans certaines localités en secteur de manière Ikilo dont Lisseï et Kabakaba après les retraits des FARDC depuis plus d'un mois. Ces entités leur servent de base pour faire des incursions dans des villages proches, affirment des sources de sécurité. La nuit dernière, ces assaillants se sont introduits au village de Digéné à environ 60 km au nord de Bounia. Ils ont tiré plusieurs coups de feu. 3 personnes, dont 2 creusers artisanaux d'or et une femme, sont mortes sur place. D'autres ont été blessés. Ces miliciens se sont livrés au pillage des biens de la population avant de se retirer. Toute la population a trouvé refuge dans les localités proches. Les notables déplorent l'absence des FARDC dans cette entité et ses périphéries, ce qui pousse, selon eux, ces hommes armés à intensifier les attaques contre la population civile. Ces derniers menacent même de progresser à Kilo et Tach, chef-lieu de cette entité coutumière. Ces notables demandent au gouvernement non seulement de renforcer l'effectif des FARDC, mais aussi de lancer des opérations militaires tant entendu par la population. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce midi, allons maintenant au Kasaï oriental où le centre hospitalier de Boya dans les territoires de Miabi a reçu ce week-end du matériel médical dont de la société Anoui Congo d'investissement minier. C'était en présence des autorités coutumières et administratives. Reportage en Mbujimayi d'Esther Ndalafina.
Ces équipements sont constitués des lits, des balances électroniques, des tables chirurgicales pour le bloc opératoire, des tables roulantes et bien d'autres. Ces dons interviennent 3 ans après la construction de ce centre hospitalier par la société Anoui Congo d'investissement minier dans le cadre de la redevance minière. Cette dotation permet aux malades de Boya de suivre les soins dans leur localité au lieu de se rendre à Miabui à plus ou moins 20 km. Jean-Marie Chikuna, coordonnateur ad intérim de la SACIM, a indiqué que ce lot de matériel sert aux soins de santé primaire de qualité et permet aussi de réduire les taux de mortalité dans la population. Il a demandé aux utilisateurs de protéger cet hôpital. Il contribue au développement socio-économique du territoire et permet la création de l'emploi direct et indirect pour les jeunes. Présent à la cérémonie, le ministre provincial de la Santé a remercié la SACIM pour cet appui. Docteur Célestin Kadima a demandé à la population de s'approprier cette structure sanitaire construite et équipée par la SACIM. Signalons que la SACIM prévoit de construire une école moderne dans le territoire de Miabi, toujours dans le cadre de la redevance minière. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, les prestataires de santé de l'hôpital secondaire de Manzasai, dans la zone de santé de Bagata, située à près de 100 km de la ville de Bandundu, ont été formés samedi dernier sur la pharmacovigilance. Ce recyclage leur a permis d'évaluer les réactions résultant de l'utilisation des médicaments. Le formateur est venu du centre régional de la pharmacovigilance. Le compte-rendu d'Irène Boma.
Au moins 15 agents de santé, tous du centre de santé de référence de Manzasai, ont bénéficié de cette formation d'un jour sur les activités de la pharmacovigilance. Le docteur Patrick Labila Amiza, superviseur et formateur, explique la quintessence de cette formation.
Notre but à Manzasai est de former les prestataires sanitaires qui soient capables de détecter et de notifier tous les événements indésirables des médicaments pharmaceutiques et traditionnels afin de nous nous envoyer au CRPV, lequel seront envoyés au CNPV, ce qui déterminera la décision afin qu'il y ait une bonne sécurité d'emploi des médicaments dans notre pays.
Satisfait, Dr Ngia Bakankar, médecin directeur de cette formation sanitaire, s'est exprimé en ces mots.
Nous étions dans l'ignorance. Il nous a donné l'information. Nous avons beaucoup de problèmes de tradis praticiens qui donnent les médicaments sans dose. Les malades après souffrent des coliques abdominales, des intoxications. Maintenant, aujourd'hui, comme nous venons d'être formés, nous allons faire beaucoup d'efforts pour faire sortir tous ces événements indésirables.
Notez qu'au même moment, la dite formation s'est aussi organisée à Kikongo dans la zone de santé portant les mêmes noms. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la poursuite au Maniema de la réhabilitation par l'Office de voirie et drainage OVD des avenues les plus reculées de la ville de Kindu dans les blocs Matapa et Tokedi et l'avenue qui mène vers le cimetière de Kabulongo. L'OVD construit également un pont sous le tronçon dit de 100 maisons jusqu'à l'université de Kindu en passant par Tokoloté. Pour en parler, retrouvons à Kindu Florence Kizalunga.
Ghislain Mougalou est le directeur provincial de l'OVD. Il explique en quoi vont consister les travaux.
Là, les travaux consistent au reprofilage, rechargement et compactage. On a commencé d'abord sur la voirie, sur l'avenue Kabulungu. C'est une avenue de 2 km 300. Cette avenue débouche jusqu'au cimetière. C'est ça l'importance même de cette avenue. C'est pour permettre aux gens de circuler librement et facilement avec les morts.
La population environnante se réjouit du lancement de ces travaux de réhabilitation tout en espérant qu'ils vont aller jusqu'au bout. Réaction.
Nous les habitants de cette partie de la ville, nous sommes très contents. Notre route s'était devenue impraticable. Nous remercions OVD pour les travaux. Nous pensons qu'il n'y aura plus les accidents ici.
Nous sommes tellement contents de ces travaux. Merci à OVD. Nous demandons que les travaux aillent vite. Ici chez nous, il y avait beaucoup d'accidents. Merci beaucoup. Pour les travaux.
Signalons que ces travaux rentrent dans le cadre de l'exécution des projets à impact rapide initiés par le gouvernement provincial du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afghanistan, les talibans exhortent les compagnies aériennes internationales à reprendre au plus vite leurs vols depuis Kaboul, la capitale. Cet appel intervient alors que le nouveau gouvernement afghan intensifie ses efforts pour gagner l'acceptation de la communauté internationale. Fin hier dimanche après-midi au Mali, des concertations sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation. Les autorités de transition ont évoqué à l'occasion la possibilité d'un report des élections générales pour avoir le temps de mener les réformes nécessaires. Et puis, alors que le président tunisien a renforcé davantage ses pouvoirs et prolongé en même temps le gel de l'Assemblée nationale, des centaines de personnes ont manifesté hier dimanche après-midi pour faire part de leur rejet de ces mesures. Un rassemblement plus important que celui de la semaine précédente.
L'invité.
Notre invité, c'est le manager du programme WCF pour la conservation de l'Okapi. Berce Nsafuansa affirme que les réserves protégées dans la province de l'Ituri sont toujours menacées par des groupes armés qui font également l'exploitation des minerais. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur Berce Nsafuansa, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de lieu de la réserve Afon à Okapi à cette journée internationale du tourisme?
La situation sécuritaire à ce jour est relativement calme, mais il reste quelques poches de défis où nous devons relever, notamment l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle. Il y a aussi un problème de la chasse pour la commercialisation de la viande de brousse, mais aussi à cela, il faut adjoindre un grand problème de l'immigration, des allochtones qui viennent s'installer au sein de cette réserve-là pour fins diverses.
Vous avez dit qu'il y a un problème aussi sécuritaire. Alors, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réserve ne soit pas la cible des groupes armés?
Bien, nous avons tout un programme de protection et ce programme a comme intérêt juste la mise en application de la loi à travers les éco-gardes qui font régulièrement des patrouilles dans cette réserve là-bas. Aux côtés du programme de protection, nous sensibilisons les communautés locales à collaborer avec l'ICSM pour essayer de boucher toutes les entrées des gens mal intentionnés, les gens armés, pour ne pas détruire cette réserve aussi importante que nous avons, la RFO.
Alors, votre réserve est aussi confrontée au problème de l'exploitation minière. Comment comptez-vous faire pour mettre fin à ces phénomènes?
Nous sommes confrontés à ces problèmes d'exploitation minière, comme je le disais tantôt, donc il faut la mise en application de la loi. Il faut que nous, Congolais, et ceux qui viennent aussi en dehors du pays puissent respecter les réglementations en vigueur. Donc, l'exploitation minière est interdite au sein de la réserve ou de toutes les aires protégées. Donc, les gens doivent se conformer à cela. Et deuxièmement, comme je l'ai dit également tantôt, donc, il y a un programme de communication. Nous continuons à sensibiliser les communautés locales et riveraines pour qu'elles comprennent l'importance d'avoir cette réserve. Et donc, c'est à travers cette sensibilisation de façon permanente, une sensibilisation de proximité avec les communautés locales que nous pouvons arriver à sauver cette réserve au détriment de l'exploitation minière.
C'est la journée internationale du tourisme. Parlons des okapis qui font la fierté de cette réserve. À ce jour, combien d'okapis compte cette réserve?
À ce jour, il est difficile d'avoir les chiffres exacts de combien d'okapis nous avons. Mais ce qui est sûr, nous avons encore des okapis à l'état sauvage qui sont libres dans la nature. Mais il faut le dire qu'il y a une pression énorme qui pèse sur cette espèce emblématique de notre pays et cette espèce phare de la réserve des faunes à okapi. Donc, nous devons tout faire pour la protéger. Et donc, il faut des inventaires scientifiques qui viendront dans le jour qui arrive là-bas pour nous donner des vrais chiffres, combien d'individus que nous avons encore dans la réserve des faunes à okapi.
Est-ce que ces okapis sont visibles concrètement?
Oui, les okapis sont visibles. Les okapis sont visibles. Nous avons tout un programme de recherche et nous utilisons les caméras trappes qui nous prouvent la présence des okapis à l'état libre et même au quartier général de la réserve, à Epoulou je dirais, donc au village même, il y a deux okapis qui acceptent aussi la présence de l'homme, c'est-à-dire que vous pouvez observer cet animal là-bas à l'état sauvage sans pour autant être dans un enclos où il peut se sentir limité. Donc vous pouvez observer les okapis avec votre propre yeux.
Alors, pour terminer, que faudra-t-il faire pour que cette réserve soit au lieu d'attraction touristique qui attire les touristes congolais, africains et du monde entier?
Oui, merci bien. À cette question-là, les responsabilités sont partagées. Mais à notre niveau, ce que nous pouvons demander à nos autorités, c'est une garantie sécuritaire. Je pense que s'il y a la sécurité, les Congolais peuvent arriver à Epoulou, visiter les attraits touristiques que nous avons là-bas, dans la réserve, mais aussi les étrangers, s'il y a la sécurité, si nous n'avons pas des tueries sur les routes, comme vous pouvez les suivre dans les médias ces derniers temps. Donc je pense que ça va attirer l'attention de beaucoup de monde pour venir visiter cette réserve.
Monsieur Berce Sanfoisa Diseki, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le manager du programme WCF pour la conservation de l'Okapi, interrogé par Martial Kizabiamungu, et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Noël Aluzitu Kabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipe Lamondo. Retrouvez cette édition en information sur Radio Okapi sur www.radiookapi.net.